Bon, si vous le voulez bien, nous allons reprendre nos travaux de ce colloque. Après une matinée consacrée aux images pieuses, le programme annonce poésie et littérature, mais M. Jean-Noël Robert, l'organisateur de ce colloque, avec un très grand souci des transitions, a prévu deux communications qui sont autant bouddhiques que littéraires, ou autant littéraires que bouddhiques. Si vous le permettez, je voudrais dire un mot sur quelque chose que vous savez certainement, mais dont, à mon avis, on ne prend pas toujours assez conscience, c'est que Bernard Franck, qui est un bouddhologue universellement réputé, était aussi, si je peux dire, un littéraire, un fin lettré. Et je rappellerai à ce propos que son deuxième ouvrage, après celui sur les interdits de direction auquel il a été fait allusion ce matin, a été la traduction de Fukuzawa Shichiro du Narayama Bushiko, qu'il a traduit, je m'en suis rendu compte en regardant un petit peu sa bibliographie, exactement 2 ans après la parution de l'ouvrage en japonais. C'est-à-dire que ce savant qui a la réputation de s'être intéressé avant tout au Japon du passé a cette fois-là saisi une actualité littéraire en traduisant un auteur qui avait la réputation d'être justement radicalement nouveau, même par rapport à la production littéraire depuis l'ère Meiji. Je rappellerai aussi que l'intitulé de sa chaire n'était pas bouddhisme ou religion, comme il a été dit ce matin, mais civilisation japonaise, et que dès sa leçon inaugurale, il annonce, donc, je cite, un autre champ d'investigation qui, de par multiples aspects, s'éloigne du précédent, le bouddhisme, mais n'est pas pour autant sans connexité avec lui, le domaine littéraire. Donc nous allons voir dans plusieurs des interventions qu'il y a effectivement connexion entre les deux champs. Je parlais de son deuxième ouvrage, donc la traduction de Fukuzawa Shichiro, mais il avait également inscrit dans son programme de son séminaire 85-89 la lecture du journal de la mère de Jojin, qui est évidemment une œuvre imprégnée de bouddhisme, de sensibilité bouddhique, mais qui n'est pas un texte réputé bouddhique, qui est un texte avant tout littéraire. Alors nous écouterons dans la première partie de cet après-midi donc 3 intervenants. Et d'abord, M. Jérôme Ducor, donc du Musée d'ethnographie de Genève, dont le titre, qui pique la curiosité, la mienne comme la vôtre, je suppose, est « Digression iconographique et littéraire ». Donc, on est là encore en prise avec les deux domaines. M. Ducor.
Merci, madame. Alors, mesdames, messieurs, il m'appartient d'assumer la transition digestive de cette journée. J'espère avec un peu de légèreté. Et pour poursuivre avec ce que disait Madame Pigeot à propos de la dimension des études de Bernard Franck sur la littérature, j'avais bien pensé l'aborder, mais il y a trop de choses au programme. Et donc, je me contente de renvoyer à la notice que Jacques Gernet a consacrée à Bernard Franck et que vous trouvez dans le compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2002. Où il aborde, M. Gernet aborde avec beaucoup de nuances et d'à propos la dimension littéraire de l'œuvre de Bernard Franck, bien mieux que je ne saurais le faire. Émile Guimet, dont il sera forcément question cet après-midi, avait 3 handicaps principaux, c'est qu'il était provincial, autodidacte et fortuné. Et avec lui, je partage le premier de ces handicaps, comme provincial, et je remercie d'autant plus les organisateurs, M. Jean-Noël Robert en particulier, de m'avoir fait l'honneur de cette invitation pour cet après-midi. Les dieux de la Chine et du Japon sont particulièrement affreux. Quand je dis qu'ils sont affreux, j'accepte le Bouddha, car je l'aime. J'aime son air de paix souriante, J'aime la béatitude avec laquelle il contemple son nombril. Il est tranquille, il est heureux, il est aimable, je l'aime. Alors, ce n'est pas une profession de foi personnelle, c'est un éditorial paru dans la presse au lendemain de l'inauguration du musée Guimet de Paris, donc en 1889, par ce dénommé Jérôme, qui est un pseudonyme que je n'ai pas décrypté. Et à ce moment, le public parisien, bien sûr, peut découvrir notamment la collection quasi exhaustive de statues bouddhiques japonaises d'Émile Guimet, qui en avait fait don avec l'ensemble de ses autres collections à l'État français. Quand je dis l'ensemble de ses autres collections, c'est aussi bien la bibliothèque qui, pour lui, était au moins aussi importante que ses collections matérielles. Mais le grand dessin de Guimet ne lui survivra pas. 2 ans après sa mort, en 1918, il est mort, et en 1920 déjà, le panthéon bouddhique japonais, avec l'étoile de son compagnon de voyage Félix Régamet, partir dans les caves du musée, ce qui permettra au collectionneur Raymond Koechlin, président du Conseil des musées nationaux, et j'allais presque dire malheureusement aussi membre du comité conseil qui pilotait le musée après la mort d'Émile Guimet, ça permettra à Koechlin de déclarer « Fervent de l'histoire des religions de l'Asie, son fondateur s'était laissé déborder par un fâcheux bric-à-brac pieux. Cette végétation parasite a maintenant disparu en partie. » Vous avouerez quand même que maintenant, à 100 ans de distance, on devine comme un fossé assez regrettable. Un des accomplissements majeurs de Bernard Franck fut donc la redécouverte de cette collection et sa présentation au public, but auquel il tendit toute sa vie comme à la recherche du Graal. Alors Jean-Noël Robert nous a gentiment rappelé ce matin que ce colloque n'était pas consacré à la vie et à l'œuvre de Bernard Franck, mais pour moi, il est évidemment inévitable quand même de rappeler quelques faits. Ainsi qu'il l'a relaté lui-même, il se consacra à son reclassement, au reclassement de la collection de la statuaire bouddhique japonaise d'Émile Guimet, la statuaire seulement. Je regrette un peu que Bernard Franck n'ait pas eu le temps de se consacrer aussi à la peinture, qui est vraiment très importante et dont il reste à faire l'analyse. Et ce, pendant une dizaine d'années, il s'est consacré à ce reclassement jusqu'à une première exposition dans l'annexe en 1968 sous le titre de « Le bouddhisme japonais, figure, symbole et croyance » où il présentait quand même déjà à peu près 180 pièces. Et si je reviens sur l'œuvre de Bernard Franck à ce moment-là, malgré la mise en garde bienveillante de Jean-Noël Robert, c'est que quand même il a fait œuvre de solitaire. Solitaire entouré, solitaire écouté, mais quand même il avait une détermination qui ne lui appartenait qu'à lui et qui lui a permis de triompher de bien, j'imagine, des difficultés. On ne mentionne pas souvent, mais en 1963, il publie déjà une importante notice de 20 pages sur le panthéon bouddhique au Japon dans la mythologie des montagnes, des forêts et des îles publiée par Larousse. Franchement, je n'aurais pas forcément été la chercher là-bas, mais il y a quelque chose déjà de très complet, un petit résumé de l'histoire du bouddhisme au Japon et les principales classifications du panthéon. Et dès son premier cours à la chaire de civilisation japonaise ici même, en 1979, il aborde principalement, mais pas exclusivement, le sujet du panthéon bouddhique japonais. Il y a enfin le couronnement de ses efforts avec l'inauguration du panthéon bouddhique japonais redéployé dans l'annexe du musée le 4 avril 1991. Un redéploiement pour lequel il n'avait pas hésité une année à sacrifier une année de son enseignement au Collège de France. Conçu non seulement comme la commémoration, avec un peu de retard, du centenaire de l'ouverture du musée de Paris en 1889, mais aussi une véritable réhabilitation des collections, ainsi qu'il le décrit lui-même. Bon, vous avez tous en tête, j'imagine, ces images, et le clou en restant évidemment l'imposant facsimilé, comme Guimet le dénommait lui-même, pas la copie, le facsimilé du mandala du Toji, commandé à grands frais par Guimet, 3 000 francs, c'était tout à fait colossal. Inspiré par Guimet lui-même, l'entregent de Franck lui permet d'organiser une cérémonie de consécration ou ouverture des yeux des statues par des moines de l'école Shingon dans cette institution de la République laïque. Hein, et on reconnaît quelques personnalités au premier plan. Je tiens à remercier au passage les services de M. Jérôme Geitzker du musée Guimet, de service photographique, pour m'avoir fourni ces photos. Cérémonie donc rituelle, tant il est vrai qu'il ne s'agissait pas, aux propres yeux des moines officiants, de simples œuvres d'art. La cérémonie a lieu, donc, comme vous le voyez ici, au premier étage, avec comme officiant Odoshi, le révérend Sunara Shuen du Toji. Donc la même d'où venait le facsimilé du mandala est la même où reposent aujourd'hui les manes de Bernard Franck à travers une statue, un hihai, une tablette funéraire. Et ça poursuit, cette cérémonie se poursuit donc au rez-de-chaussée devant le mandala, donc exactement de la même manière que l'avait fait une bonne centaine d'années auparavant un autre moine du Shingon et qui allait d'ailleurs devenir le patriarche de toute l'école, Toki Doryu. Et ainsi, on voit que l'ensemble de la collection fut confirmé dans l'authenticité de sa dimension religieuse et non pas comme simple spécimen ethnographique. Ce mandala, à lui seul, est comme la synthèse du panthéon de Guimet, sa fabrication dans toutes les règles de l'art constituant même le symbole de l'ensemble de sa démarche, c'est-à-dire rendre accessible au public occidental ce qu'il avait pu voir, identifier au Japon. Voilà donc ce fameux mandala, qui n'est pas à proprement parler la reproduction, comment dirais-je, du point de vue artistique à l'identique, mais reprendre le plan, le concept du panthéon lui-même, puisque là on a Bouddha, Bodhisattva, Dieu, etc. Ce mandala en particulier a été redéployé dans l'exposition Les Trésors d'Émile Guimet qui a ouvert le nouveau musée des Confluences à Lyon. Mais vous voyez qu'il y a des trous, il y a des manques. Certaines pièces avaient été jugées, on ne sait pas pourquoi plus certaines que d'autres, trop fragiles, fragilisées pour faire le voyage de Paris à Lyon. Et à l'issue de l'exposition, cependant, l'ensemble ne retrouvera pas sa place à l'annexe du musée Guimet. Une photo, je dois reconnaître, assez désolante. Et de toute façon, maintenant, toutes les galeries ont fermé sans cérémonie à l'été 2015. Ce qui en est de leur avenir, c'est Okage-sama. On verra bien ce que ça donnera. Les origines de ce panthéon remontent bien sûr à l'enquête menée par Guimet sur les religions du Japon lors de son voyage en Asie, illustrée par son compagnon Regame. Je vous montre une photo qu'on commence à connaître, il y a des variantes, et je vous la montre entre autres parce qu'elle provient d'un album de Léon Durie, qui a été le professeur des traducteurs de Guimet, qu'on voit ici, et aussi parce que je vous indique le nom du photographe et qu'on mentionne jamais, alors que ça figure gaufré au revers de la photo. Certains des documents de Guimet et de Regame sont conservés à la bibliothèque du musée Guimet, et j'en profite pour remercier très chaleureusement la conservatrice de la bibliothèque, Madame Christina Kramerotti, ainsi que la chargée du fonds japonais, Madame Asegawa, qui se trouve parmi nous cet après-midi, qui, franchement, ont une libéralité comment dit-on en français, pas accession, mais dans l'ouverture et l'accès qu'elles offrent aux chercheurs, qui est tout à fait remarquable et qu'on aimerait retrouver ailleurs dans d'autres institutions. Curieusement, ce n'est pas le public français, mais le public japonais qui, le premier, a eu la primeur de l'histoire de la genèse de cette collection lors du deuxième colloque des études japonaises tenu à la Maison franco-japonaise de Tokyo en 1982. En effet, lors de ce colloque, d'une part, Mademoiselle Omoto Keiko, qui elle aussi nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, Mademoiselle Omoto Keiko y présenta les résultats de ses recherches dans les archives du musée Guimet pour relater les biographies de Guimet et Regame, ainsi que leur voyage en commun. D'autre part, Bernard Franck y fit, pour la première fois, à ma connaissance, publiquement état de la triangulation déterminante qu'il avait pu établir entre, premièrement, le Butsudozui, l'encyclopédie illustrée des images bouddhiques dans sa seconde édition de 1783. En deux, l'étude du Butsudozui sous le titre de Pantheon von Nippon par Hoffmann, publiée dans le monumental Siebold Nippon de Siebold en 1852 et 3, le plan d'acquisition systématique de Guimet au Japon en 1876. Depuis la disparition de Bernard Franck, la poursuite du dépouillement des archives du musée a conduit à la découverte de nouveaux documents qui permettent de compléter les informations livrées au public francophone en 1990 par Mademoiselle Omoto et M. Francis McQuinn dans leur bel ouvrage « Quand le Japon s'ouvrit au monde ». Certains de ces documents sont anecdotiques, quoique significatifs, comme ce montage par Félix Régamet des deux portraits des voyageurs du Japon. Ça, c'est des photos qui se trouvent, vous en avez vu celle de gauche, on l'a vu tout à l'heure, de l'album de Dury, et les deux, là, sont celles conservées dans les papiers de Régamet au musée Guimet, avec au milieu une esquisse préparée par Régamet lui-même. Il devait se juger un peu trop mis à l'écart dans la photo de gauche, donc il s'est recentré au milieu. C'est anecdotique, mais intéressant, parce qu'il y a, on l'a découvert maintenant, il y a une rivalité quand même latente entre Guimet et Régamet. Il y a le patron millionnaire d'une part, l'artiste bohème d'autre part, et ce n'est pas toujours facile pour eux de s'accorder. D'autres documents auraient certainement passionné Bernard Franck, s'il avait eu le loisir d'y accéder. Je pense par exemple aux réponses des sept principales obédiences religieuses, shinto et bouddhiques, au questionnaire que leur avait adressé Guimet, et dont la traduction a été publiée par Frédéric Girard, aussi présent parmi nous, dans ses dialogues avec les religieux japonais en 2012. Ou encore le catalogue dressé par Guimet lui-même des livres religieux qu'il acheta au Japon à cette époque et qui a récemment permis d'identifier pour la première fois l'ensemble des responsables indigènes auprès desquels il est allé chercher ses informations. Et sous presse, il y a un nouvel article, c'est quand même 38 pages assez serrées, qui va sortir sur Guimet et Félix Régamet, un portrait croisé, qui va sortir dans la prochaine livraison du journal asiatique dans les jours à venir. Il y a d'autres documents, en dehors du musée Guimet, qui auraient sans doute passionné Franck aussi pour reconstituer le cadre de ce voyage, et je pense aux collections photographiques de Louis Kretman que Madame Matsuzaki Petit-Mangin a su si bien mettre en valeur. L'action de Guimet se situe à l'époque du japonisme, comme nous avons tenté de l'évoquer dernière à Genève à travers l'exposition consacrée au bouddhisme de Madame Butterfly, le japonisme bouddhique, et je saisis l'occasion de remercier tous ceux qui, dans la capitale parisienne, ont bien voulu apporter leur concours, y compris jusqu'à Madame Junko Franck, qui a bien voulu nous prêter une statue du Bouddha Amida ayant appartenu à Monsieur Franck, et le musée Guimet, le musée Tchernouski, etc. La liste serait trop longue. Ce japonisme, j'y reviens, mais rassurez-vous brièvement, je ne vous refais pas toute la thématique de l'exposition, avec ce beau pastel de Frédéric Régamet, donc le frère cadet de Félix, qui vous représente l'atelier de Carolus Durand en 1887, 2 ans avant l'ouverture du musée parisien. Et on voit tout au fond, au milieu, une statue du Bouddha, une statue dorée, peut-être un Amida, voyez, placée en dessous d'une tentation de Saint-Antoine. Il y a un rapprochement assez étonnant, mais qui traduit bien cette diffusion et aussi, comme la citation que je vous donnais en ouverture, cette sympathie, somme toute, qu'il y avait à l'égard du Bouddha et de son image. La même chose, vous voyez, exactement le genre de mise en scène avec ce Bouddha dans la demeure de Pierre Loti à Rochefort. Or, Loti mentionne plusieurs fois dans son livre, Madame Chrysanthème, bien sûr, publié en 1888, il mentionne plusieurs fois que la chambre des amants, la jeune japonaise et l'officier de passage, étaient occupées par un hôtel domestique avec une statue d'un Bouddha, et je ne cite que 2 exemples. Dans notre logis, toute la nuit ouverte, les lampes qui brûlent devant le Bouddha doré nous procurent la compagnie de toutes les bêtes des jardins d'alentour. Un peu plus loin, le Bouddha doré sourit toujours devant ses veilleuses qui brûlent. Et cette indication se retrouve lors de la création de Madame Chrysanthème d'André Messager, directement, ouvertement inspirée du roman de Loti. Et vous voyez ici, c'est Madame Prune, c'est-à-dire l'équivalent de Suzuki dans l'opéra de Puccini, qui fait ses prières également devant une statue de Bouddha. Et bien sûr, dans le célébrissime opéra de Puccini, qui date de 1904, et dont l'adaptation française fut créée à Paris à l'Opéra Comique en 1906 avec des costumes dessinés précisément par Félix Régamet. Et vous revoyez ici, légèrement sur la gauche, le Bouddha, le paravent, sur la droite, et c'est entre les deux qu'elle commettra le geste fatidique et final. Alors qu'il n'en est pas question chez Loti ni ses messagers. Mais bien qu'elle se soit convertie pour se marier, elle se soit convertie au christianisme, lorsqu'elle va sauter la vie, ça sera bien devant l'image du Bouddha. Et puisque je vous disais que les costumes de cet opéra ont été créés par Régamet, eh bien, je suis toujours à la recherche de leurs croquis qui existent. Et aux dernières nouvelles, il serait à Londres. Mais enfin, si qui que ce soit avait quelques indications, il y a quand même une vingtaine de ces croquis qui sont intéressants tant pour le japonisme de l'époque que pour l'œuvre de Félix Régamet. Régamet qui donc avait contré Loti en publiant son propre cahier rose, le cahier rose de Madame Chrysanthème, où il a imaginé, somme toute, les réflexions intimes de la jeune fille délaissée, et où il introduit cette dimension dramatique du suicide. Dans son pamphlet, Régamet fournit cependant un détail qui n'a pas été repris dans l'opéra de Puccini, mais qui nous ramène à l'iconographie bouddhique. Car selon Régamet, ce n'est pas devant un quelconque Bouddha que prie Butterfly, mais devant la déesse Benten. C'était lui, elle, son vénéré principal. Et je cite dans le cahier rose de Madame Chrysanthème de Régamet, « Avant son mariage, la jeune femme déclare « J'ai accompli mes dévotions à Benten et nous sommes en règle avec ces messieurs de la police. Ouais. » Shinzoku Nitai, hein, il faut se mettre en règle sur les deux niveaux de la vérité absolue et de la vérité relative. Et puis plus loin, elle dit « Et puis j'ai placé sur son socle, dans le tokonoma, entre deux lanternes de bronze, Benten, une statuette en bois doré, chère relique qui me vient de mes grands-parents. C'est la bonne déesse de la mer, protectrice des amoureux. Elle est bien à sa place ici, mais plus précieuse encore aujourd'hui. » Et enfin, la jeune femme poursuit, « La nuit, nous sommes tourmentés par les insectes ailés. La lumière des lampes qui brûlent auprès de Benten les attire dans notre chambre. » Régamet n'était pas féru de religion. Pour le moins, il était libre penseur, mais il a écrit quand même des ouvrages quasiment ethnographiques sur le Japon. Il y en a un qui s'appelle « Le Japon tout court »,« Le Japon illustré »,« Le Japon pratique ». Et dans le Japon pratique, précisément, qui date de 1891, il donne ses descriptions bien renseignées lorsqu'il énumère les sept divinités du bonheur, les Shichifukujin. Et en commençant par Benten. C'est d'abord Benten, dont l'écharpe flotte au vent. Elle tient un luth et un éventail. Bon, l'éventail, je pense, c'est une confusion avec le plectre triangulaire. On est fixé sur son origine, qui est indienne. Donc Régamet est quand même assez bien renseigné, presque plus que le petit catalogue du musée Guimet à l'époque. Mais ses attributions sont définies avec aussi peu de précision que celles de ses compagnons, les autres dieux du bonheur. Elle serait à la fois déesse du mariage, de la mer et de la musique, des musiciens et des danseurs, patronne des artistes et du ciel par-dessus le marché. On se l'arrache littéralement. Et c'est, comme il l'a bien souvent expliqué, également à la recherche de l'image de Benten, c'est la recherche de cette image qui orienta les premiers pas de Bernard Franck au Japon, à la suite de ses lectures de l'Afkadio Hearn et du Hobogirin, où elle est reproduite dans le premier fascicule. Plus précisément, le 16 mars 1954, il alla chercher l'ofuda de la Benten de Shinobazu, celle qui figurait dans le Hobogirin, à Ueno, mais sans succès. En 1988, il écrivait encore que ses efforts étaient restés vains, et l'on devine que la quête de cette image, cette ofuda en particulier, sous-tendit toute sa collection, où elle finit bien par entrer, puisqu'elle y figure en effet aujourd'hui, comme on peut le voir dans l'inventaire mis en ligne. Ça, je crois que, puisqu'on parle de 20 ans après, c'est une réalisation qui lui aurait certainement plu, que grâce à la compréhension de sa famille et des efforts du Collège de France, cette collection soit entrée, de même qu'on a maintenant la collection de Leroy Gourhan et d'autres, notamment dans le cadre de Japanese Buddhist Art in European Collection, ce grand inventaire en ligne, dont il ne reste plus qu'à espérer que le musée Guimet s'y rallie également. Ça serait une contribution tout à fait remarquable. Alors là, il va me falloir, évidemment, j'avais une digression sur les Shichifukujin en comparant les deux éditions du Butsuzuzui, cette fameuse encyclopédie illustrée des images bouddhiques. Franck, au musée Guimet, n'avait accès qu'à la seconde édition et je suis sûr qu'il aurait tiré un parti remarquable de la comparaison entre ces deux versions. Je saute donc pour rapidement là-dessus, tant pis. On arrive à cette image, une des formes de Benzaïten, qui est la forme nue, qui peut aussi être habillée à l'occasion, comme on a ça pour certaines images aussi chez nous. À gauche, avant restauration, à droite, après. Tout ça pour rappeler que l'idée de figer dans sa patine une statue n'existe pas dès lors que c'est un objet cultuel bien vivant. Et Franck regrettait qu'on n'en ait pas au musée Guimet, il n'en avait pas trouvé. Il avait acheté en 1963 chez un sculpteur de Kyoto l'image d'Ugajin, la divinité de la fertilité, qui figure parfois dans la coiffe de Benzaïten, mais il n'avait pas trouvé donc la statuette de Myohan Benzaïten, Benzaïten au luth, qui est une forme ésotérique et très peu sculptée. C'est ce qui donne du charme à celle-ci que j'avais trouvé pour le musée d'ethnographie, vous voyez, d'une facture très rustique, somme toute, mais tout à fait correcte dans l'iconographie, y compris le serpent sur lequel elle est assise, et avec sa tête même suggestivement qui lui cache le sexe. Et je pense que Bernard Franck n'aurait pas dédaigné ce genre de matériel non plus, comme il le disait dans sa leçon inaugurale. Il envisageait deux champs d'investigation, disait-il. L'un serait celui des sources littéraires, en un sens très large du terme, aussi bien ancienne que moderne. L'autre champ d'investigation serait celui que constitue le terrain de la pratique vivante. Il impliquerait une prospection plus systématique encore des lieux de culte. Ailleurs, Franck déclare que toute son enquête, je crois qu'il comptabilise à peu près 2000 temples, il arrive à 1000 au Fouda, et il dit, avec cette modestie qui le caractérisait, que ce n'était qu'un sondage. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus qu'à travers l'iconographie bouddhique, c'est quand même le bouddhisme japonais que Bernard Franck voulait réhabiliter. Ce bouddhisme japonais, pour dire le moins, négligé par la recherche occidentale, parce qu'en bout de course, loin dans le temps et dans l'espace de l'Inde du Bouddha. Alors qu'au Japon, au contraire, on considère qu'il s'est enrichi à travers le Sangoku Denrai, la transmission à travers les trois pays, qu'au Japon, c'est l'acmé du bouddhisme. Et Franck l'a dit, je vais terminer avec ça, l'a montré en cautionnant la publication de l'ouvrage de Fuji Shimaryu-on sur les 12 écoles du bouddhisme japonais, qui, il le dit lui-même, Bernard Franck pourrait paraître vieilli, mais qui était le seul. Et après cela, on a republié, et Franck y a contribué en le complétant, en le mettant à jour, l'article, le chapitre de Gaston Renondeau. C'est toujours le même. À trois fois, il a été réédité. Et on n'a toujours rien. C'est peut-être là où je me dis qu'à 20 ans de distance, c'est dans cette direction, d'avoir une synthèse du bouddhisme japonais dans sa dimension historique et doctrinale. Voilà une œuvre capitale, un peu comme tout le propos s'est gardé la récente publication de la traduction de l'histoire du bouddhisme chinois de Chen, qui est tout à fait remarquable et utile, même si l'ouvrage date déjà il y a un certain temps. Et il y a toute une connexion que je ne fais que de suggérer, mais cet ouvrage donc, de Fuji Shimaryu-on avait été appuyé par Sylvain Lévy. Et Sylvain Lévy déclare que c'est même à cette occasion qu'il a commencé à apprendre à lire les caractères chinois. Et avec ça, il y avait une autre connexion, c'est que ce bonze du Honganji était accompagné d'un autre, Fujieda Takutsu, qui était ni plus ni moins que le cousin, un des cousins du 21e patriarche. Et comme par hasard, c'est par cette filiation que Sylvain Lévy va pouvoir débloquer les crédits pour le Hobogirin. Vous avez, sur les deux premiers fascicules d'une part, sur la première table du Taisho d'autre part, le nom de Otani Sonyu, qui était lui le fils, ou plutôt le frère du 22e patriarche, le fameux Otani Kozui. Je termine juste sur une appréciation, ça sera pour une prochaine fois, de Sylvain Lévy sur l'œuvre de son élève. Et Lévy disait ceci: le lecteur lui doit à Fujishima, d'entrer en communion directe avec une âme bouddhique, de pénétrer le dédale obscur des consciences orientales que la philologie ne suffit pas à expliquer. C'est que la religion étrangère à la raison et la science ne s'explique pas seulement par la raison et par la science. Elle est l'œuvre du cœur plus que de l'esprit et doit s'apprécier aussi par le cœur plus que par l'esprit. Et là, ça ne peut m'empêcher de penser à Guimet, pour ces considérations assez célèbres. Pour bien saisir la doctrine de Confucius, il est bon de se donner un esprit chinois. Pour comprendre le Bouddha, il faut se faire une âme bouddhique. Mais comment y arriver par le seul contact des livres ou des collections? Il est indispensable de voyager, de toucher le croyant, de lui parler, de le voir agir. Alors permettez-moi de penser en conclusion que j'imagine volontiers que Bernard Franck s'est inscrit dans cette lignée de, on dirait aujourd'hui, empathie avec son sujet. Et je vous remercie pour votre attention.
Je vous remercie beaucoup. Il semble que M. Julien Faury veuille bien donner un résumé en japonais de votre intervention.
Je suis juste tout à fait honteux.
Ou la pupille.
日本で求めよう、依頼されて少し今、全体的な話ですけれども、基本的にまあ、義名美術館にあるそのベルナル・フランクが集めたその仏像などの歴史や、まあ、様々なそういった歴史などのご報告でした。まず最初に出てきたのは大事だと思うんですけれども、ベルナル・フランクの研究の中で仏教だけではなくやはり文学研究の重要性が改めて指摘されて、ジュコル先生もそれを指摘していました。最初のところは義名美術館における義名美術館の開館式1889年の時にその名言というのが載っていて、仏以外日本の神仏はひどいもので、仏像仏だけは時をこう可愛らしい姿で仏が好きっていう引用から、そういった、まあ、義名美術館におけるその、仏像の美術品の収集の歴史ですけれども、義名がその1918年に亡くなった時に、まあ、全ての作品が贈呈されたんですけれども、1920年2年も経たないうちにそれが倉庫に行ってしまって、まあ義名美術館の一つのそういった仏像の扱い方の一つの転換であったということで、ベルナル・フランクの大きな功績の一つはそういった仏像の再発見であったことが指摘されました。一つ目は仏像の整理、そして180点ぐらいの仏像を整理してそれを紹介したというのはベルナル・フランク先生が一人でやったことは一つ大きな業績であったということが指摘されました。そして日本仏教史に着手して1979年ここコレージュ・ド・フランスの基調講演が行われました。そして1991年4月4日その義名美術館の別館とも言うべきパンテオン仏像パンテオンというその仏像だけのところがの開館式が行われた。そこから、その中に当時マンダラの、まあ、ファクシミレレプリカというようなものが、あって、当時は仏像の開眼式、というのが真言宗の僧侶たちによって行われたことはただの美術品ではなくてその宗教的なもの、その宗教的な次元が、重視されたことの、象徴であるというご指摘がありました。その、まあ、仏教、仏像パンテオンの目的は、まあ、西洋人一般人に、日本で見てきたベルナル・フランクが見てきたものの、紹介、というのが大きな目的だったのですが、リヨンでの展示会を、きっかけにその仏像がバラバラになってしまって、まあ、先の写真でご覧になったようにまばらな、状態でそれが現状に、至りますので、まあ、その再発見、がまた必要になってきています。もう一つ その報告の紹介はその義名美術館のアーカイブのが研究対象になった、ということで、その、中での業績も出てきています。義名氏、義名が来た時代は、まあ、ジャポニズムの時代であったということで、そこから長寿夫人のオペラとのつながりが出てきたんですけども、写真でレカメ 死が座っている写真に、その左に西安とアンヌの誘惑という像の下に仏像があった、まあ、共存しているというところが非常に興味深い。ピエール・ロティが自宅でいろんな金色の仏像を並べているという写真もご覧になったと思います。そしてプチーヌのオペラ、蝶々夫人ではやはりそういう、こう仏像が出てきているので、そういった話からその蝶々夫人が拝んでいる仏像というのは弁財天であることに特定できたことも一つのそのご報告の大きなポイントだったと思います。そこでベルナー・フランクが1954年に特に手に入れたいのは忍ばずの弁天ということで、それをずっと探していたんですけども、それついに入手できたことは非常に喜ばしいことだということから、その弁財天の唯一ベルナー・フランクコレクションに入っていないのはその明音弁財天、その裸の弁財天であって、それがそういうのをバルナ・フランクは好きだっただろうというお話でした。で、最後にフランク先生の研究の大きなテーマといいますか、方向といいますか、一つはその文学研究、その出典などの文学的な研究と、もう一つはその宗教の実践ということで、フランク先生は2000ぐらいのお寺を回ってお札を1000枚以上集めたというのが大きな業績であって、その仏教の三国伝来の中で、仏教がインドの本来の仏教から遠ざかっていったのではなく、だんだん豊かになってきたという、その仏教、日本仏教の見直しというのも大きな業績だったということで、最後のシルバネビの引用から、仏教宗教などはそういう本だけではなく実践の場、特に信者が実践しているところを観察することが、その研究の必要な見方であるので、本だけではなくて実際行われている宗教を観察することが必要だということで締めくくりました。